Les vraies voix Sud Radio. Philippe David.
Ah bah je fais mes pompes, hein.
Ah bah oui. C'est bien.
Ah bah DJ Pif m'a dit que tu fasses des pompes à ton âge, ça va te faire du bien. Alors je fais mes pompes.
Hein. Ah ouais.
Puis là l'herbe est tellement verte, on peut s'installer, c'est bien. Oh qu'est-ce qu'on est bien chez vous.
Là, vous avez des tablettes de chocolat, ça se voit à travers la chemise, c'est énorme.
Ah oui, ça vous ressemble. Ah. Bon. Allez, c'est parti, hein. C'est parti pour les vraies voix de l'écologie.
Pire cette histoire.
Merci. Depuis le début de l'épidémie de Covid, des mots considérés comme ringards par ceux qui les répètent aujourd'hui à l'envi sont revenus à la mode. Des mots comme indépendance ou souveraineté. Il faut dire que mondialisation rimant avec délocalisation, les Européens en général et les Français en particulier ont pu découvrir ce qu'étaient les pénuries de masques fabriqués en Chine et de molécules fabriquées en Chine et en Inde. Des produits importés dont le bilan écologique est catastrophique puisque fabriqués selon des normes environnementales parfois nulles et transportés depuis le bout du monde. Pourtant, malgré les questions posées par cette pandémie, les élites défendent encore et toujours la mondialisation, ce qui laisse à penser que le monde d'après sera comme le monde d'avant en pire, crise économique à venir oblige, d'où le débat de ce soir dans les vraies voix de l'environnement sur Sud Radio. Pour sauver la planète, faut-il en finir avec la mondialisation? Et pour le moment, vous êtes 94% à dire oui sur Facebook et 92% sur Twitter. Avec nous pour en débattre, Caroline Pilastre, chronique sociétale. Bonjour Caroline, enfin plutôt bonsoir Caroline.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Corinne Tapiero, élue LR de Paris. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde.
Tom Conan, auteur de notamment du livre notamment Manuel de résurrection, publié chez Jonakis. Bonsoir Tom.
Oui, bonsoir à tous.
Et Mathieu Torret, avocat spécialisé en fiscalité environnementale, ancien haut fonctionnaire en charge entre autres des taxes environnementales. Je vais commencer
bonsoir.
En vous faisant réagir à la...
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Mais bienvenue sur Sud Radio. La une du très libéral The Economist résume un peu la situation actuelle puisqu'elle dit « Devant une planète qui s'épluche comme une pomme de terre, au revoir mondialisation, la dangereuse illusion de l'autosuffisance. L'autosuffisance qui ne sera jamais totale est un leurre, une illusion ou est-elle un objectif à se fixer pour sauver la planète ?» Tiens, allez, honneur aux dames, Corinne Tapiero.
Écoutez, moi je me méfie toujours de ces annonces qui sont prises sous le coup de l'émotion, sous le coup d'une pandémie qui a été dramatique, mais qui a quand même été au final, et sans cynisme de ma part, simplement en regardant les chiffres, bien moins importante que d'autres pandémies que nous avons connues. Attaquer la mondialisation, c'est bien. Je pense que nous aurions pu déjà dans un premier temps nous alerter sur l'état de dépendance de la France vis-à-vis des usines qu'elle s'est choisie dans le monde pour ne faire de ce pays qu'un vaste pays de tertiaire, où nous avons perdu tous les fleurons de l'économie. On aurait dû s'alerter dès lors qu'il y a eu des pénuries de médicaments dont les molécules étaient fabriquées en Chine et en Inde. C'est une pénurie qui a duré près d'un an, sur des médicaments extrêmement importants qui touchaient les gens atteints de problèmes de thyroïde, des problèmes cardiaques, des problèmes de tension et d'autres problèmes. Il n'y a eu aucune réaction du gouvernement. Il y a une problématique, c'est...
Corinne, je vous coupe. Oui. Un médicament beaucoup plus basique comme le paracétamol, c'est-à-dire Efferalgan, Dafalgan, etc. Doliprane, oui. Le dernier gramme de Doliprane soit sorti d'une usine en Europe, c'était en 2008.
Oui, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'on a choisi de faire de la Chine et des pays qui étaient des pays dits émergents, les usines du monde. Ça permettait aussi de faire ce qu'on appelait, entre guillemets, de la coopération qui n'en est absolument pas. C'était une forme de colonialisme. Mais aujourd'hui, dire en sortir, c'est la meilleure solution, je ne suis pas certaine que ce soit les choix les meilleurs. Il y a des termes qui sont extrêmement importants dans un pays. C'est les stocks stratégiques dont on ne doit pas se départir, les productions stratégiques dont on ne doit pas se départir. Or, on a tout bradé. En France, nous avons tout bradé. Voilà.
Galanterie oblige, on continue avec Caroline Pilastre. Est-ce que pour vous, c'est un leurre, comme l'écrit The Economist, l'autosuffisance ?
Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut reconnaître que l'économie, un lapsus, hein, rassemble vraiment sur le constat autant qu'elle divise sur les solutions. Quoi qu'il en soit, pour moi, on doit retrouver du raisonnable. Il faut arrêter d'épuiser les ressources de la planète à tout va. Quand on pense relocalisation, moi je pense avant toute chose, là on l'a vécu avec la pénurie des masques, Bon, ça, c'est encore un problème de gestion, mais c'est quand même assez terrifiant de voir ce que vivent les agriculteurs. Là, nous étions tous obligés de consommer, de nous nourrir français, puisque les frontières étaient fermées. Et je pars du principe que ce sont des gens qui travaillent non-stop, une fois de plus pour nous nourrir. Nous n'avons qu'une terre nourricière. Et ceux qui vont manger et qui font provenir de la viande d'Amérique du Sud, enfin, c'est pas fou. En termes de bilan carbone, il y a simplement juste du bon sens à retrouver. Toutes les entreprises ne voudront pas relocaliser. Ne soyons pas dupes, tout le monde n'est pas vertueux. Et puis, il y a aussi la question du budget, la question des revenus de chacun, parce que les gens sont capables de faire des efforts et ont envie de faire des efforts, sans parler d'écologie pure et dure. Mais malheureusement, eh bien, écoutez, si vous mangez des fraises espagnoles, c'est un constat. Elles sont moins chères que les fraises françaises. Moi, je pars du principe que c'est sur toute la chaîne qu'on devrait revoir le modèle. Et c'est l'occasion ou jamais, avec cette crise malheureusement inédite, sanitaire et économique, qu'on devrait aplanir justement tout ça. Vraiment, la délocalisation, ça crée du chômage, ça crée plus de pollution. Malgré tout, la mondialisation a fait, selon l'ONU, qu'il y a 500 millions de personnes qui sont moins pauvres, on a accès à Internet, à la culture, au voyage, donc ça n'est pas si manichéen que ça, si vous voulez. Moi, je pars vraiment du principe que sur le quotidien de chacun, on devrait pouvoir avoir moins d'obsolescence programmée, pouvoir consommer des produits qui sont français moins chers, et forcément de meilleure qualité, parce que je rappelle que les agriculteurs ont un cahier des charges, il y a des normes qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Donc c'est tout simplement pour moi retrouver la raison, respecter l'environnement, respecter les humains, et puis la souveraineté nationale, ça n'est pas forcément un gros mot justement, parce que pendant des années, à cause du profit, ça a été très facile de se retrouver dans des pays, la Chine, le Bangladesh, ne serait-ce que pour l'achat de vêtements, ce sont les plus grands producteurs. Donc, moi, je pense vraiment que là, il y a quelque chose à faire et c'est maintenant ou jamais, parce qu'on a vu avec l'usine du monde qu'est la Chine à quel point nous étions dépendants. Et ça, c'est scandaleux. Et vraiment, c'est mon coup de gueule parce que j'ai trouvé ça ignoble que nous soyons autant dans l'attente, une fois de plus, sans parler de la gestion politique qui a été plus que critiquable. Mais vraiment, on n'a pas l'impression que la France était la 6e puissance mondiale durant cette
crise. Ça, c'est sûr et certain. Vous êtes bien sur Sud Radio. Il est 19h13. Les deux débattrices ont réagi pour commencer, galanterie oblige. Dans quelques instants, on va écouter nos débatteurs. Si vous voulez réagir, c'est le 0826 300 300, on se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, Philippe David.
Retour des vraies voix sur Sud Radio, des vraies voix de l'environnement. Pour sauver la planète, faut-il en finir avec la mondialisation? Et pour le moment, vous êtes 94% à dire oui sur Facebook et 91% sur Twitter. Avant d'avoir notre grand spécialiste du jour, Tom Conan, je rappelle que vous êtes notamment auteur du manuel de résurrection. Est-ce que pour vous, l'autosuffisance, vous êtes d'accord avec The Economist ou pas?
Oui, alors ça dépend après dans quelle mesure. Disons, The Economist dit pas que des choses fausses. Il y a quand même des journalistes très très bons dans ce canard. Mais évidemment, c'est quand même une ligne éditoriale qui est très particulière et que je partage pas en grande partie. Non, mais je voudrais juste rappeler un ou deux points importants en fait. Pourquoi est-ce que finalement tout ce processus qu'on appelle mondialisation s'est déroulé dans les conditions que vous connaissez et s'est approfondi depuis environ 30-40 ans? Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ricardo, qui est un économiste très important, qu'on apprend quand on fait de l'économie, qui a théorisé un truc qui s'appelle la théorie des avantages comparatifs. Et en fait, on l'applique tous au quotidien sans s'en rendre compte. Il expliquait tout simplement que les nations, donc les États, les régions, etc., se spécialisent là où elles ont un avantage comparatif relativement à d'autres pays. Donc effectivement, par exemple, la France, c'est une terre agricole, donc on a un secteur agricole qui est dynamique. L'Allemagne, on sait que très bon, par exemple, dans les machines-outils. On sait qu'effectivement, la Chine est l'usine du monde. Bon, il y a d'autres pays qui ont d'autres types d'avantages. Et donc effectivement, naturellement, lorsque l'économie est amenée à se développer, on se spécialise. Le problème, évidemment, c'est que si on utilise cette arme-là, cette logique-là, qui est à la base une théorie, qui est une hypothèse économique, si on l'applique à mort, évidemment, on arrive à des résultats extrêmes qui sont tous ceux qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire une désindustrialisation massive, évidemment, qui ne s'est pas produite du jour au lendemain, mais qui a pris des décennies à arriver, et là, qui s'est vraiment matérialisée en pleine face, si j'ose dire, avec le problème des masques qu'on ne produisait plus, et bien d'autres produits encore. Et donc, en fait, c'est ce modèle économique qui a été poussé à l'extrême. Donc, en soi, la théorie des avantages comparatifs et donc la mondialisation, qui est en fait son versant politique, la concrétisation politique, c'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra effectivement jamais produire, en tout cas pas dans des conditions suffisamment compétitives. Donc, de ce point de vue-là, les économistes ont raison. Mais évidemment que si on va trop loin dans ce processus, il y a ensuite une concentration sur certains secteurs, ce qui ensuite est très risqué. Et on peut même, par exemple, prendre d'autres pays, comme par exemple l'Angleterre. L'Angleterre, aujourd'hui, compte énormément sur son secteur financier et très, très dépendant du dynamisme de son secteur financier. De la City, ce qui est un vrai problème, parce qu'évidemment, on sait qu'en termes de krach boursier ensuite, il peut y avoir des conséquences délétères sur l'emploi, etc. Et la Chine, elle, a une politique beaucoup plus prospective, on pourrait dire, donc vraiment prévoit l'avenir, parce qu'elle, justement, pendant très longtemps, s'est concentrée sur les secteurs dits à faible valeur ajoutée, donc effectivement l'usine du monde, et depuis quelques temps, maintenant, le secteur industriel représente moins de 50% de son PIB, et donc ça veut dire qu'elle se diversifie dans des secteurs à haute valeur ajoutée, nouvelles technologies, etc. Ce qui est évidemment une très bonne chose. Le problème, évidemment, c'est qu'en Europe, en France, c'est vrai, mais même en prenant l'Europe en général, il n'y a pas de politique économique. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune politique économique commune en Europe. Il y a une politique agricole commune, il y a une politique régionale qui désormais est première en termes de budget avant la politique agricole qui l'a été pendant très longtemps, mais il n'y a pas de gouvernement économique commun. Il y a uniquement des plans pluriannuels, il y a des cadrages, il y a des coopérations, mais il n'y a pas de politique économique commune. Et c'est ça la grande faiblesse par rapport à d'autres régions qui malgré tout restent beaucoup plus dynamiques, comme l'Amérique du Nord ou comme l'Asie du Sud-Est. Alors que pourtant l'Europe est un énorme vivier de consommateurs et de potentiel économique, parce que c'est quand même plus de 800 millions de consommateurs avec des grands pays qui sont les fers de lance de beaucoup de secteurs, l'Allemagne, l'Italie, la France, même l'Angleterre qui n'est plus dans l'Union européenne mais qui reste en Europe évidemment économiquement parlant. Donc en fait, on n'a pas profité en fait de ces atouts-là, notamment parce qu'il n'y a aucune politique économique et donc il y a finalement des États qui mènent des politiques qui vont dans un certain sens. Et ensuite, peut-être le dernier point avant de laisser la parole.
Rapidement, pour donner la parole à Mathieu.
Ouais, oui. Je dirais juste que, en fait, le drame aussi, c'est que c'est un élément qui est massif, c'est que l'Europe est la seule zone dans le monde à ne pas faire de protectionnisme.
Les États-Unis, alors ça, c'est une vraie question.
Les États-Unis en font avec une monnaie qui est notoirement sous-évaluée. La Chine, pareil, évidemment, avec les yuan.
Monnaie sous-évaluée, le Japon aussi.
Exactement.
Le Brésil, n'en parlons pas.
On est vraiment le
dindon
de la farce de ce point de vue-là. Eux, évidemment, ils sont dans la mondialisation. Qui dirait que les États-Unis sont des communistes? Personne dirait ça. Évidemment, pour eux, c'est même une insulte. Donc, ils sont libéraux, mais pas du tout dans la version européenne. Nous, on est vraiment libéraux dans un sens complètement manichéen. On pourrait dire, effectivement, là, un peu extrême, d'une certaine façon, à la fois très, très protectionniste à l'intérieur, avec des politiques sociales très, 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 très coûteuses et pas forcément très efficaces, d'ailleurs, pour certaines d'entre elles. Mais par contre, on est complètement ouvert aux quatre vents s'agissant des questions vraiment de liberté économique à proprement parler entre les États par rapport à l'extérieur de l'Europe. C'est ça qui est, à mon avis, le vrai drame de...
Le nœud gordien. On va faire réagir Mathieu Thoré, avocat spécialisé en fiscalité environnementale, ancien haut fonctionnaire en charge, entre autres, des taxes environnementales. Mathieu Thoré, qu'est-ce que vous avez envie de répondre quand vous entendez tout ça? Mathieu? Allô? Mathieu Thoré? Ah, on le rappelle, ça a coupé. On va reprendre avec vous, Corinne Tapiero. Vous avez entendu, c'est vrai quand même que le protectionnisme, c'est devenu un gros mot, mais que aujourd'hui, tous les autres pays pratiquent le protectionnisme et que finalement, c'est peut-être une bonne chose pour l'environnement.
Alors, l'idée est très simple. Je vais vous rappeler...
On parle de la Chine, de l'Inde, des États-Unis, etc.
Voilà. Hein. Je vais vous rappeler un petit moment d'histoire. C'est lorsqu'on a décidé de mettre une taxe sur les camions qui traversaient la France en provenance des pays d'Europe qui étaient ceux qui polluaient quand même davantage que les autres, il y a eu un tollé. C'était une forme de protectionnisme, c'était une façon de financer une économie verte, de financer des améliorations environnementales durables, et il y a eu un tollé. On est aujourd'hui dans une logique où, effectivement, on peut choisir de faire du protectionnisme, mais faut-il en avoir les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on est capable de produire tout ce qu'on va acheter ailleurs? Quand on sait que lorsque nos pêcheurs vont pêcher en mer, le poisson qu'ils pêchent va être traité dans des usines en Chine. On a tué l'essentiel de l'entreprise de production en France. C'est-à-dire que, bon, sans doute que les charges y étaient pour quelque chose, sans doute que l'organisation à la française, peut-être aussi le monde syndical, qui est un frein au développement économique, à des modèles qui seraient moins normés, il y a des tas de choses à remettre en cause. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes dans une situation où on voit ressurgir de la démagogie idéologique au service d'une idée. Je m'explique. C'est-à-dire que
on a retrouvé Mathieu Thoret. Qui n'a pas encore parlé. Il y avait un problème de réseau. Mathieu Thoret, rebonsoir. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en fiscalité environnementale et ancien haut fonctionnaire en charge entre autres des taxes environnementales. Quand vous entendez tout ça, est-ce que pour vous, pour sauver la planète, il faut en finir avec la mondialisation? Et comme le dit The Economist, est-ce que c'est possible?
Alors, Mathieu, bon, vous m'entendez?
On vous entend fort et clair.
Ah,
parfait.
D'accord, bon, bah, très bien. Bah, la fiscalité écologique, je crois que vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure pendant que nous avons été coupés. Pour moi, la fiscalité écologique, ça pourrait être un outil, effectivement, qui pourrait favoriser la relocalisation, la réindustrialisation. Alors, un outil qu'a priori nos autorités entendent propulser et accélérer, puisqu'on a parlé précédemment du Green Deal. Le Green Deal, c'est un grand projet européen qui vise à faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre à l'horizon 2050. Alors, pour atteindre cet objectif très ambitieux, il y a plusieurs outils, dont un outil qui s'appelle la taxe carbone aux frontières, dont on a déjà entendu parler plusieurs fois, qui a été remisé plusieurs fois et qui là revient en force, qui pourrait permettre de favoriser donc les industries européennes vis-à-vis de leurs concurrents non européens, puisque le principe donc de la taxe carbone aux frontières est relativement simple, hein, c'est taxer les marchandises qui sont fabriquées en dehors de l'Union européenne. Donc ça augmenterait le prix de vente de ces marchandises, qui donnerait un avantage compétitif aux industries européennes qui, elles, sont déjà soumises à des normes environnementales qui sont plus contraignantes, par exemple, que les normes chinoises. Donc, elles sont un petit peu pénalisées au niveau de leur compétitivité. Et l'objectif de cette taxe carbone aux frontières, ce serait de resserrer un petit peu cet écart de compétitivité. Et éventuellement, avec les recettes que générerait cette taxe carbone aux frontières, soit participer à la relocalisation d'entreprises ou, comme le laissait entendre Thierry Breton, participer au remboursement du grand emprunt que devrait faire l'Union européenne pour la relance économique. Donc, ce que souhaite faire la Commission européenne avec ça, c'est effectivement encourager une relance économique verte pour éviter les erreurs de l'après-crise de 2008 qui avait notamment conduit à favoriser par exemple les énergies fossiles. Là, clairement, c'est plus d'actualité. Le deuxième grand outil de ce Green Deal, c'est aussi la refonte de la taxation des énergies. Clairement, les énergies fossiles devraient être plus taxées qu'elles le sont actuellement pour favoriser les énergies vertes.
L'essence est déjà pas mal taxée quand même. Hein.
Comment ?
L'essence, le carburant est déjà pas mal taxé quand même.
En France, oui. L'essence est très taxée, oui.
En France.
Oui, tout à fait. En France, l'essence est très taxée. Alors, il y a plusieurs taxes, notamment il y a ce qu'on appelle
la TICPE.
La TICPE qui contient une composante carbone. Voilà, c'est ça. C'est la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques.
De produits énergétiques.
Voilà. Et donc, ça taxe tous les produits énergétiques qui sont consommés en France, dont les principaux, les essences et le gazole. Et effectivement, c'était cette augmentation de la taxe carbone hein, qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes en 2018, qui a été gelée jusqu'à
novembre
nouvel
2018.
Ordre. Voilà. Et donc là, ça permettrait, entre guillemets, de déplacer le problème au niveau européen, puisque cette taxe carbone se ferait aux frontières de l'Union européenne. Elle ne serait pas gérée par chacun des États membres, mais elle serait gérée par la Commission européenne, qui serait autorisée à lever de l'impôt. Ce serait une première.
Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 19h27. On doit faire une pause, ma chère Corinne. On vous redonne la parole au retour. Il est 19h27. Pour le moment, vous êtes 94% à dire oui sur Facebook. Oui, il faut en finir avec la mondialisation pour sauver la planète. 92% sur Twitter. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio. Philippe David.
Retour des vrais voix environnement sur Sud Radio en compagnie de Caroline Pilastre, chroniqueuse sociétale, Tom Conan, auteur de Manuel de résurrection publié chez John Akis, Corinne Tapiero et l'ULR de Paris, et Mathieu Torret, avocat spécialisé en fiscalité environnementale, ancien haut fonctionnaire en charge, entre autres, des taxes environnementales. Ça réagit au 0826 300 300. Nous avons Béranger. Bonjour Béranger.
Bonsoir à tous.
Béranger, bienvenue sur Sud Radio. Nous vous écoutons.
Bon, ben merci et bonsoir. Alors, je livre un petit témoignage juste pour situer d'où je parle. Moi, ça fait 10 ans, j'ai acheté un terrain et j'ai construit une maison avec des matériaux locaux en terre, en bois et isolée en paille. Avec de la paille qui a poussé dans le champ d'un agriculteur à une dizaine de kilomètres du lieu de la maison. Je vis en récupération.
Donc, vous n'êtes pas dans une grande ville.
Je suis absolument pas dans une grande ville. Je suis à l'orée de la forêt. Pendant le confinement, je me trouvais très bien. D'ailleurs, au passage, c'est intéressant de voir le nombre de personnes qui se reposent des questions parce qu'elles vivent effectivement dans des endroits surpeuplés, dans des appartements de 20 mètres carrés. Alors peut-être qu'il va y avoir un mouvement, une sorte d'exode urbain. Moi, je le souhaite parce que on a parqué les gens dans des villes à des tarifs totalement délirants. Et ça, c'est de la responsabilité du politique. Donc, en gros, il faut vraiment quitter les villes. Si des gens se posent encore des questions, je vous le dis, hein. Quittez les villes, allez vous installer à la campagne, en périphérie, ou éloignez-vous même des villes, allez le plus loin possible, refaites vivre les campagnes, parce qu'il y a plein de choses à faire. Il faut produire de l'alimentation, il faut produire de l'énergie, il faut travailler sur l'autonomie sans attendre l'État et les incapables qui sont au pouvoir depuis des décennies. Voilà, si on m'attend sur ces gens-là...
Et vous avez construit votre maison donc uniquement avec des produits locaux, on va dire ça comme ça?
À 90%, oui, voire à 99%, oui.
Et alors, question, est-ce que ça vous a coûté beaucoup plus cher que si vous aviez fait, vous aviez acheté, on va dire, si vous avez construit votre maison, vous, au magasin de bricolage du coin, avec des tuiles qui venaient du Bangladesh ou du Pakistan et des briques qui venaient de Chine?
Ça m'a coûté beaucoup moins cher dans le sens où c'est moi qui ai mis en œuvre. Donc, à partir du moment où vous travaillez vous-même, il faut savoir sur le prix d'une maison, en gros, on a un tiers de prix, ce sont les matériaux, et les deux tiers, c'est la main d'œuvre. Donc si on a le temps de s'y mettre, on baissera ces prix des deux tiers à peu près. Hein, voilà.
Et vous êtes vraiment content d'avoir tout fait en matériaux local et c'était économiquement intéressant en plus?
Évidemment. Moi, jamais j'aurais pu accéder à la propriété si j'étais allé voir une banque, si j'avais posé un dossier, c'est absolument impossible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que à travers mon petit témoignage, mais il y a quand même pas mal d'autoconstructeurs en rapport avec la construction écologique qui ont suivi le même processus que moi ces 10-15 dernières années. On est très nombreux. Ce modèle-là, en fait, il est absolument à l'encontre de cette mondialisation libérale dont vous parlez et dont c'est le sujet ce soir. C'est-à-dire que quand vous retravaillez avec les matériaux locaux, avec les artisans du coin, avec les scieries, avec tout ce qui se produit dans un rayon, on va dire, de 50 à 100 kilomètres, on va pas aller trop loin. J'ai quand même, moi, des matériaux qui sont venus d'un petit peu plus loin, mais néanmoins, beaucoup moins que si j'avais fait une maison traditionnelle en laine de verre, etc. Là, vous allez absolument à l'encontre de la mondialisation libérale dans votre comportement. Moi, j'y suis déjà opposé idéologiquement, c'est-à-dire que je suis dans un combat, mais je suis, lui, dans une lutte plutôt antilibérale, en tout cas du vrai libéralisme d'Adam Smith. Vous avez évoqué Ricardo tout à l'heure, votre invité. Il a évoqué Ricardo. Conan, oui. On aurait pu évoquer Adam Smith. Tous ces gens-là ont été absolument dévoyés, Adam Smith en particulier. Donc, ce libéralisme-là, aujourd'hui, il n'existe plus. On est dans une sorte de néo-capitalisme financier qui détruit tout, qui détruit la vraie productivité, qui détruit la vraie vie des gens. Donc, ces puissances
financières... Et la planète. Mais alors, justement, Béranger, on va faire réagir nos débatteurs. Caroline Pilastre, vous avez entendu Béranger. Merci beaucoup, Béranger, qui a construit sa maison avec des matériaux locaux, etc. Ça vous donne envie de faire chauffer l'huile de coude?
Pas du tout. Hein. Je suis nulle en bricolage, donc ne me demandez pas ça. Je suis extrêmement citadine. Il en faut, mais je respecte tout le monde. Simplement, je voulais juste dire qu'en dehors des véritables mesures politiques et économiques et un courage électoral, hein, soyons clairs, qu'il faudrait que les gouvernements successifs aient envie d'avoir, surtout, Béranger a tout dit. Hein. C'est aussi une question de choix. Nous avons tous un rôle à jouer dans la consommation. Et sans parler de minimalisme, hein, une fois de plus. Mais privilégier les circuits courts, ne pas faire appel à Internet à chaque fois qu'on désire un produit. On a beaucoup parlé des libraires durant le confinement. Eh bien, écoutez...
On en parle encore.
On en parle aussi, mais plutôt que de commander sur un site très connu, et je ne suis pas, une fois de plus, anti-mondialisation, il en faut pour tout le monde, ça a été une avancée, une ouverture des frontières sur la culture, ce que je disais précédemment, en citant plein d'autres choses, mais il faut de la raison. Vraiment, moi, j'aimerais revenir à ça, et puis surtout, on doit lier... les combats sociaux et environnementaux, pour moi, c'est vraiment respecter l'humain autant que l'animal. Alors. Et ça n'est pas opposé ni l'un ni l'autre. Après, je vous dis, on a tous un rôle à jouer quand on ouvre notre portefeuille. Mais est-ce que c'est bien possible, vu la période, comme je le dis régulièrement chaque semaine, parce que ça a un coût. Quand vous allez acheter dans une boutique de fast fashion un t-shirt, forcément, vous l'aurez à 5 ou 10 euros. Et si vous allez l'acheter dans une boutique éthique, ça coûtera plus cher. Même si c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour l'environnement et c'est mieux pour notre santé. Mais il faut aussi prendre en considération le budget de chacun.
Alors ouais. Justement, Tom Conan, ouais. Vous avez... Oui, ouais. c'est Tom. Justement, je voulais vous faire réagir ouais. à ce que disait Béranger, qui était très intéressant. Ouais. Et on a deux commentaires. Alors c'est marrant, c'est Véronique et Isabelle qui échangeaient sur le mur Facebook. Ouais. L'une dit « Ouais, les fraises made in France à 24 euros le kilo. » Et Véronique répond « 12 euros le kilo si on va chez le petit producteur. » Est-ce qu'on n'est pas vraiment, comme l'a dit Béranger, dans le consomme acteur?
Oui, alors moi j'écoutais vraiment religieusement ce que disait Béranger, hein, quelqu'un vraiment de très pertinent, enfin je vois en plus très très cultivé, parce que je pense qu'il faisait appel vraiment à Adam Smith. Et ce que vous savez, Adam Smith effectivement c'est un grand théoricien de l'économie et on sort toujours un ouvrage qui est La richesse des nations. Et moi je sais quand j'étais à Normal Sup, on m'expliquait aussi qu'il avait rédigé un autre ouvrage avant qui s'appelle La théorie des sentiments moraux et qui, comme son nom l'indique, en fait invalide quasiment la totalité de la thèse en fait de La richesse des nations, qui est pourtant le livre qui est tout le temps mis en avant, alors que c'est un peu la bible du capitalisme. Donc parenthèse close, mais bon, parfois si vous voulez, parfois on parle tellement de choses comme ça sans maîtriser en fait les sources et en les dévoyant totalement qu'on arrive à peu près à n'importe quoi. Donc ça c'était pour rendre un peu hommage à ce qu'a précisé Béranger. Ensuite, quand même, malgré tout, moi je voudrais, alors certes le coût des fraises etc, bien sûr on peut être un consomme acteur, je suis tout à fait d'accord avec ça, et moi je suis toujours partisan vraiment du fait qu'il faut d'abord agir soi-même plutôt qu'attendre forcément tout de l'État, tout n'est pas politique, hein. En France, on politise tout à l'excès. À un moment donné, il faut aussi se responsabiliser chacun. Mais je dirais que, en fait, il faut quand même pas non plus oublier un autre combat. Moi, il y a un autre combat qui me semble, on s'est parlé de combat, de lutte, etc. Donc, il y a quand même des enjeux, disons, d'engagement. Il y en a un qui me semble essentiel, c'est que, citez-moi en France ou en Europe, un GAFA. Il n'y a pas de GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix Apple. Pour la culture désormais. On a aussi Alibaba pour le Amazon chinois. On a Huawei pour les téléphones chinois, etc. qui ouais, sont absolument. En train de prendre des parts de marché délirants. Je pense que tous, autant qu'on est, on a forcément déjà un téléphone. On a nécessairement, j'imagine, soit un Samsung, un Apple, un Nokia, je ne sais quoi. Donc que des marques qui ne sont pas des marques européennes. Après, moi, je m'en fous d'acheter moi-même, j'ai un iPhone, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et je trouve que c'est du bon matos. Mais pour autant, c'est un problème parce qu'il n'y a pas d'alternative. Je veux acheter, un Netflix qui soit allemand, italien, anglais. Ça n'existe pas. Idem pour Amazon, idem pour tous les exemples que j'ai cités. Donc, il faut évidemment que l'Europe mette en avant une politique un peu distincte, y compris qui peut être axée sur l'écologie, sur certaines ruptures avec le modèle libéral. Tout à fait d'accord. Néanmoins, à côté, on aura quand même pour... construire notre propre maison, même pour vivre un peu en marge, de manière un peu différente, etc. On aura quand même besoin d'une connexion Internet, d'un ordinateur, plus que jamais d'ailleurs, parce que justement, on travaillera peut-être à distance.
Surtout avec
etc.
le télétravail, oui.
Voilà, et avec le télétravail et tout ça. Et donc, en fait, finalement, moi, ce que je vois actuellement, qu'est-ce que je vois? Je vois des transferts de richesses colossaux et de plus en plus colossaux vers, en fait, les autres nations. Alors après, dans l'absolu, moi, je m'en fous. Hein, je suis pas non plus un nationaliste hystérique. Mais c'est vrai que ça m'embête quand même de savoir que moi, je dépense une somme très importante, voilà, tous les mois. Et comme nous tous, dans les abonnements pour un cloud, dans un téléphone, dans des abonnements culturels.
Les chaînes de télé à péage, etc.
Exactement. Voilà. Et finalement, c'est des sommes énormes, mais des sommes absolument colossales. Enfin, je veux dire, des abonnements à ce genre de services ou alors les hardware, les softwares, donc les logiciels, etc., et le matériel informatique, tout ça, c'est des sommes énormes qui sont immédiatement transférées, on pourrait dire, à d'autres acteurs.
Ça, c'est vrai.
Après, ce qui est terrible...
On va faire réagir Mathieu Thoré et après Corinne Tapiero. Voilà. Mathieu Thoré, quand vous avez entendu, par exemple, notre ami Tom Conan qui disait qu'il répondait à Béranger, c'est bien d'acheter local, mais regardez, Il n'y a pas un Netflix allemand, il n'y a pas un Google français, sauf il y a Quant, mais qui est beaucoup plus petit. Est-ce que quelque part, on n'est pas passé à côté de la mondialisation dans les pays européens et surtout de la numérisation ?
Sur l'absence de géants en Europe du type GAFA, alors c'est peut-être avec mon prisme d'avocat fiscaliste, mais moi je pense que c'est effectivement à cause d'une fiscalité probablement bien moins avantageuse en France et en Europe qu'on a que les sièges de ces sociétés ne s'implantent pas ici, parce que au niveau de la politique de la R&D, la France est plutôt bien placée. Il y a un crédit d'impôt recherche qui est parmi le plus élevé au monde. Donc je pense qu'il y a des raisons fiscales. Après, c'est mon prisme d'avocat fiscaliste. J'ai pas d'opinion autre que fiscale sur ces sujets. j'analyse à travers ce prisme-là.
Et non, pour avoir travaillé sur les taxes augmentables, Corinne Tapiro.
Oui,
Corinne Tapiro, vous vouliez réagir, oui.
Oui, moi je voulais réagir parce que j'ai écouté tout ça avec beaucoup d'attention. Alors, c'est sûr que c'est formidable de pouvoir construire sa maison soi-même sur un terrain qui coûte...
Ça vous gratouille pas, vous, de vos bras musclés, Corinne Tapiro, de le faire ?
Moi, je suis très bricoleuse, alors j'aimerais faire ça.
Vous êtes comme Caroline Pilastre, on vous donnera des tutoriels.
Voilà. Non, moi je suis très très bricoleuse, j'adorerais faire ça. Mais c'est absolument pas dans mes projets. D'abord parce que il y a un rapport au monde, il y a un rapport aux autres qui s'installe. Et moi dans lequel je vis forcément. D'abord parce que je suis élue et que j'ai toujours beaucoup travaillé dans le monde associatif et que pour moi il est important de passer du temps avec les autres, ce que je fais assez régulièrement. Mais ce qui m'interpelle toujours dans ces débats environnementaux. Et les réponses que donnent les États, alors j'ai bien écouté qu'on attend beaucoup de choses de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe n'apporte aucune solution, aucune réponse. Les seules réponses peuvent être effectivement une taxe à l'entrée des matières premières, enfin des matières qu'on achèterait dans les usines du monde.
Une taxe carbone européenne, comme disait Mathieu Thoret.
Voilà, donc ça veut dire qu'on va faire en sorte que ces produits coûteraient à peu près le même prix que les produits français, sauf qu'en réalité, aujourd'hui en France, on n'est pas capable de les produire, ces produits. On l'a vu avec les masques, par exemple, donc on a fait des masques de briques de broc, les masques n'étaient pas obligatoires parce qu'on n'en avait pas. Quand on en a eu, il fallait qu'ils étaient obligatoires. Enfin bon, bref, c'était un imbroglio incroyable. Mais ce qui est le plus dérangeant dans ces débats sur l'environnement, c'est que la réponse immédiate qui vient est une taxe. Alors moi, je vais vous dire, si pour que la planète aille mieux, il suffisait de taxer tout le monde tous les jours, alors oui, la réponse, elle n'est pas là. La réponse, elle est que les taxes qu'on impose, soi-disant pour améliorer l'environnement, sont un leurre. C'est un leurre, d'abord parce que ça abonde d'autres dépenses et on le voit à peu près tous les jours. La réalité aujourd'hui, c'est que on est dans une société de consommation. Si on a procédé au déconfinement, c'est d'abord parce que l'économie s'est arrêtée et qu'aujourd'hui, oui, il faut absolument que les Français consomment.
Relancer la machine.
Donc, il faut relancer la machine. C'est pas seulement relancer la machine qui serait absolument honorable et admirable, c'est inciter les Français à consommer. Donc on nous a expliqué il y a une semaine que d'aller manger au restaurant c'était extrêmement dangereux. Là ça ne l'est plus parce qu'il faut relancer cette machine économique et il faut absolument qu'on consomme. Moi ça ne me pose pas de problème de consommer. Moi je suis un consommateur très sobre. D'abord parce que je n'achète pas des choses inutiles, je recycle, je redonne une vie au produit parce que c'est une habitude, une tradition familiale, j'ai déjà dit sur votre antenne. Mais ce qui est le plus dérangeant, c'est qu'on nous incite. Il suffit d'écouter les spots publicitaires sur votre radio, sur d'autres radios, sur les télévisions. On nous incite à consommer. À consommer pourquoi ? Je veux dire, il y a une publicité qui m'a beaucoup agacée même pendant le confinement. C'est une publicité pour une entreprise qui fait du reconditionnement de téléphone. Bon, c'est formidable, très bien, ça permet d'acheter moins cher, de pas polluer en jetant des composants électroniques n'importe comment. C'est formidable. Sauf que la justification, c'était oui, mais avec ce qu'il a économisé, il va pouvoir faire un saut en parachute. Franchement, est-ce qu'un saut en parachute, c'est essentiel à l'existence aujourd'hui ?
Ouais, moi je
comprends tout ça.
Certaines personnes peut-être, hein, Corinne. Après, c'est un choix de chacun.
Est-ce que c'est un argument de consommation ? L'argument de consommation,
c'est pas obligé de craquer.
Et on l'a vu avec la crise, c'est qu'il y a des tas de gens qui, du fait qu'on est fermé, par exemple, les marchés les marchés découverts, ne pouvaient pas s'alimenter au prix que nous imposait la grande distribution choisie par l'État pour être nos sources d'approvisionnement. Donc ça, c'est une vraie question. À mon avis, la question, elle est là. Est-ce qu'on peut continuer à appauvrir les gens en les empêchant de se nourrir correctement à des prix raisonnables? Effectivement, le kilo de fraises à 24 euros, mais il n'y a pas que le kilo de fraises hein, qui est à des prix prohibitifs.
Non, c'est un exemple comme un autre.
Donc il y a une vraie question. Et cette question environnementale, elle se situe, elle devrait se situer prioritairement sur le bien-être des gens. Est-ce que pour être heureux, d'abord, il ne faut pas bien se
mais
nourrir?
Justement,
Vraie question. On doit faire une pause. On doit faire une pause, Caroline. C'est vrai que pour ceux qui ont connu l'époque du franc comme votre serviteur, on nous aurait parlé d'un kilo de fraises à 150 francs. Oui, je sais. On aurait parlé d'un kilo de fraises à 150 francs le kilo. On ne l'aurait absolument jamais cru. Vous êtes bien sur Sud Radio. Oui, les vraies voix de l'environnement. Pour le moment, vous êtes 94% à dire oui, il faut en finir avec la mondialisation sur Facebook, 92% sur Twitter. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio. Philippe David.
Retour des vraies voix sur Sud Radio en compagnie de Caroline Pilastre, Tom Conan, Corinne Tapiro et Mathieu Thoret. Caroline Pilastre, vouliez réagir juste avant la pause rapidement?
Oui, je voulais réagir. Je voulais juste dire que j'ai horreur de culpabiliser les gens. Là, on sort, enfin, on n'en est même pas sorti encore, tant qu'on n'aura pas un traitement de ce Covid. Les gens ont le droit de se faire plaisir. Ils ont été traumatisés. On est en pleine psychose encore. S'ils veulent aller dépenser, se faire plaisir en fonction de leurs moyens, grand bien face à la consommation, puisque nous sommes en récession. Mais malgré tout, il y a une véritable prise de conscience des citoyens, parce que comme nous étions ramenés à l'essentiel, moi, je pense vraiment que beaucoup ont pris conscience, justement, de ne plus faire des achats d'impulsion, de ne plus s'exciter sur de la surconsommation à tout va, et aussi rappeler qu'il y a des entreprises qui jouent le jeu, parce que pour vous donner un petit chiffre, entre 2014 et 2018, vous avez 98 entreprises qui ont relocalisé, comme des marques telles le Coq Sportif ou la marque de chaussettes Olympia. Donc ça veut bien dire que dans certains secteurs, quand on veut, on peut. Et puis en France, il faut quand même rappeler, cocorico, qu'il y a une main d'œuvre, il y a un véritable savoir-faire, mieux même que les Chinois. Mais tout ça, évidemment, est une question économique, est une question politique, et à mon petit niveau, je ne peux pas vous donner les clés, mais c'est vrai que si nous devons revivre une crise comme celle-ci, il faut vraiment se poser les véritables questions, ne serait-ce que sur le régalien.
Oui,
mais alors moi, justement, allez-y Tom.
Oui, enfin, moi il me semble que vraiment, en fait, l'un des problèmes, moi je vois beaucoup dans les jeunes générations, c'est que finalement, on a, très franchement, si je le dis brutalement, on a envie de se barrer. On a envie de se barrer de France, principalement, éventuellement d'Europe, parce qu'il n'y a plus de désir, en fait. Il n'y a plus de désir pour ça. Moi, je n'arrive pas très bien à comprendre ce qui se passe, pas dans ce pays, mais je veux dire, c'est quoi le projet européen? Il n'existe pas, en fait. Il y a des espèces de normes qui sont pondues par des gens qui sont pas élus, qui sont les commissaires européens. Donc, certains sont utiles, d'autres, sans doute pas. Il y a une méga structure qui s'appelle l'Union européenne, qui a certaines utilités, notamment en termes de protection de certains droits, etc., mais qui n'a pas de ligne très claire non plus. L'Union européenne, c'est vraiment un truc qui a le cul entre deux chaises depuis 70 ans. Je rappelle quand même que le traité CECA, c'est 1951, le traité de Rome, c'est 57. Donc ça fait quand même plus de deux générations qu'on est quand même dans le projet européen. Il n'y a toujours rien qui est très lisible. Là, il y a effectivement eu la crise du Covid qui a touché le monde entier. Néanmoins, je pense que vous voyez, il y a d'autres régions qui, j'en suis certain, se redresseront beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une résilience incroyable. Rappelez-vous, même en 2008, moi j'ai des souvenirs qui sont pas très précis, mais je l'avais ensuite étudié en cours après. En 2008, les États-Unis, ils sont pris quand même la crise en pleine figure, beaucoup plus que nous, parce qu'ils étaient touchés directement. En deux ans, ils étaient repartis. Nous, on a mis 10 ans à s'en remettre, alors qu'on était quand même touchés beaucoup moins. Alors, pour d'autres raisons également. La Chine, ensuite, bon, c'est un pays qui, politiquement, a beaucoup de dysfonctionnements, et vraiment, je ne me reconnais pas du tout dans le modèle, notamment en termes de protection des droits et de démocratie qu'elle promeut. Néanmoins, la Chine également a un modèle. La Chine, elle voit à 50 ans, à 100 ans. C'est quoi? Nous, on a même pas de visibilité à l'horizon 2-3 ans. C'est quoi l'horizon? Réélire Macron ou avoir je ne sais qui en face? Enfin, honnêtement,
ça n'excite personne. Ça n'excite personne. Je pense qu'il va y avoir une partition de la société, pas forcément celle qu'on imagine, hein, mais entre, disons, ceux qui peuvent encore partir, hein, ceux qui sont suffisamment jeunes pour se projeter pour une vie ailleurs, ce combat d'enfants, etc. Et ensuite les autres qui, bon, bah voilà, sont un peu bloqués d'une certaine façon, parce que c'est compliqué, bien sûr, après de changer de crèmerie. Mais très franchement, moi, c'est triste à dire, hein, mais je pense que vraiment le sentiment de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'on a envie vraiment de se barrer de ce pays et voire même éventuellement de l'Europe. Et vraiment, je dis ça sans aucune gaieté dans le cœur.
Mathieu Thoret, quand vous entendez ça, vous trouvez ça comment, désespérant ?
Non, alors moi j'ai bien entendu ce que disait Corinne tout à l'heure sur la fiscalité écologique et ses travers, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème, on crée une taxe. Alors la fiscalité écologique, pour moi, pour qu'elle fonctionne, faut effectivement, je suis d'accord avec Corinne, qu'elle ne soit pas que punitive, faut aussi qu'elle soit incitative. Donc pour en revenir à la taxe carbone aux frontières, le problème c'est... Que va faire l'Union européenne de cet argent ? Effectivement, si ça sert à renflouer les caisses des différents États membres ou que à rembourser le futur grand emprunt que fera l'Union européenne, c'est un problème. En revanche, si l'argent qui est généré par cette taxe carbone aux frontières, qui va être payé sur des produits étrangers, fabriqués en Chine, aux États-Unis, fabriqués dans des pays qui ne respectent pas, par exemple, les accords de Paris.
Excusez-moi, je vous redonne la parole, Mathieu Thoret. Oui. Mathieu Thoret, je vous redonne la parole. Mais oui, faire venir, quand on fait venir d'Argentine ou du Brésil du soja OGM, c'est-à-dire qui est pas bon pour l'environnement, qui épuise les sols et qui est fait des milliers de kilomètres, leur mettre une taxe carbone, ça me paraîtrait pas inutile, sachant qu'on aime bien mettre des taxes carbone sur les automobilistes.
On n'a pas besoin de les acheter. Pourquoi on les achète? Voilà.
Ah ben si, parce que, excusez-moi, le tourteau de soja, on n'en produit pas assez en Europe. Mathieu Thoret.
Non, mais effectivement, et donc du coup, taxer le soja, effectivement, qui est produit à l'autre bout du monde, c'est pas idiot. En plus, ça va générer de l'argent. Après, c'est et OGM. Que va faire l'Union européenne de cet argent ? Alors, pour le moment, rien n'est écrit. Hein. C'est encore qu'un projet, mais bon, le projet devrait être dévoilé en 2021, donc bientôt. Si l'Union européenne finance, grâce à ça, des relocalisations d'industries, donne des crédits d'impôt, donne un avantage compétitif à nos industries, je pense que c'est une bonne chose. En revanche, si ça reste qu'une taxe comme une autre, effectivement, c'est très critiquable, comme le disait Corinne tout à l'heure. Il faut que la fiscalité écologique, elle avance sur deux jambes. Il faut qu'elle soit incitative et punitive. Un peu comme en France avec le bonus-malus automobile. Les personnes qui achètent des véhicules polluants paient le malus automobile. Les recettes générées par le malus automobile vont aller financer, bah, par exemple, le bonus pour l'achat de véhicules hybrides ou électriques, dont Emmanuel Macron a annoncé
hier
le relèvement. Voilà, exactement.
Justement. Donc,
pour moi, voilà, le bonus-malus automobile, c'est le bon exemple de la fiscalité écologique qui fonctionne sur deux jambes.
Ben là, vous
Corinne Tapion, vous voulez réagir.
D'Europe, hein. Vous posez la problématique de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe est orientée vers tout à fait autre chose que l'économie et le sociétal. L'Europe est orientée sur une idée d'être une puissance mondiale, une puissance qui pèse dans les échanges internationaux et dans la géopolitique. Je veux dire que c'est essentiellement son objet. Il suffit de voir le nombre de résolutions qui sortent de l'Europe qui ne concernent absolument pas les pays européens. Quand on voit comment elle abonde la Palestine avec des propos totalement surréalistes, alors qu'on devrait s'occuper de la crise du Covid en ce moment. Oui, donc, après, il y a une problématique de l'Europe qui a perdu l'essence de ce qu'elle était. Ah, je pense elle a commencé avec la communauté, avec le charbon, et aujourd'hui on finit avec n'importe quoi.
Enfin, excusez-moi, Corinne Tapiro, elle a commencé avec la préférence communautaire, c'était l'Europe des six au départ, et après avec l'arrivée des Anglais qui depuis sont partis, c'est devenu une zone de libre-échange. C'est Tom qui voulait réagir.
La difficulté en fait, c'est que vous savez, il y a ce film très bien, L'exercice de l'État avec Michel Blanc, qui retrace un ministre des Transports dans une période assez récente. Et à un moment donné, il y a une scène très forte entre quelqu'un qui va pantoufler dans le privé et un directeur de cabinet qui est joué par Michel Blanc, donc au ministère des Transports, et qui dit à un moment donné, bah voilà, finalement, regarde-toi, tu signes des décrets toute la journée, donc on imagine que ça pourrait être aussi des résolutions européennes qui sont ensuite adoptées ou des directives qui sont transposées, donc bref, des normes, toujours des normes, mais tu n'as plus de puissance. Et effectivement, c'est tragique. Aujourd'hui, l'Union européenne, mais on pourrait même dire la même chose pour la France, je ne vais pas être décadentiste ou défaitiste, hein, mais finalement, c'est beaucoup de normes, beaucoup de contraintes. Alors après, des contraintes qui peuvent être pertinentes, hein, parce que des contraintes, ça peut être orienté dans un sens vertueux, mais il n'y a pas de puissance. Pourquoi il n'y a pas de puissance ? Bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas, déjà, il n'y a pas de peuple européen à proprement parler, parce qu'on n'a pas réussi vraiment à le définir. Il n'y a surtout pas de gouvernement européen. Il n'y a même pas de politique économique européenne, encore une fois. Et on sait bien que les efforts qui sont allés dans ce sens-là se sont écroulés récemment, avec notamment le Brexit et avec peut-être d'autres sorties ultérieures. Donc je pense que le problème, il est là. On ne peut pas uniquement effectivement construire un marché commun, comme vous l'avez très bien rappelé, une monnaie commune, qui d'ailleurs fonctionne quand même assez mal, globalement, et qui est quand même un poids, quand même, globalement, pour beaucoup d'économies européennes, et notamment les économies du Sud, et sans de puissance à côté. À côté, encore une fois, la Chine et les États-Unis, c'est pas juste des zones de libre-échange, c'est pas juste des zones dynamiques économiquement, c'est pas juste des consommateurs.
C'est des zones où on part de Californie à Floride, à l'autre bout du pays, sans problème, alors que les Européens déménagent pas de Lituanie au Portugal aussi facilement, déjà pour des problèmes linguistiques. Merci beaucoup à tous les quatre, Tom Conan, auteur du manuel de résurrection chez Jonakis, Corinne Tapiero, élue LR de Paris, Caroline Pilastre, chroniqueuse sociétale, et Mathieu Torret, avocat spécialisé en fiscalité environnementale, ancien haut fonctionnaire en charge entre autres des taxes environnementales. Verdict final, vous êtes 89% sur Twitter et 94% sur Facebook à le dire que pour sauver la planète, il faut en finir avec la mondialisation. Bonsoir Yvan Cujous.
Et bonsoir mon Fifi David. Il y en avait du monde dans, les prévois, dis donc.
Oui, bah pour toi, la musique, c'est mondial. Donc, évidemment, t'as reçu beaucoup de monde dans les vraies voix. Et quel est le menu ce soir? Dans le menu, le lock music, pardon.
Eh ben oui, mon Philippe. Alors justement, quand tu parles d'artistes internationaux, Imouvrini qui est avec nous ce soir, on a fréquenté beaucoup parce qu'il a fait beaucoup. Ils ont fait beaucoup de duos, notamment avec Sting, avec Pavarotti, avec plein de gens comme ça. Et il sera là tout à l'heure, Jean-François Bernardini au téléphone. Et puis l'homme de la télé s'appelle Fred Zetoun. C'est le titre d'une de ses chansons. Il est chroniqueur à Télématin. Il parle de chanteur, mais il est artiste lui-même. Et il sera là tout à l'heure en direct avec nous. Et également, on parlera d'une initiative Drive-In Festival où les gens peuvent regarder le aller au cinéma, mais en voiture. Tu sais, Philippe, ils vont dans des grands espaces comme ça et ils regardent le cinéma, le film depuis la bagnole. Bon, c'est pas mal comme idée. Hein.
Et
voilà, c'est une alternative.
Et c'est très bien. Et on reste avec toi, mon cher Yvan, de 20h à 21h sur Sud Radio.